Bonsoir à tous. Je vous invite à tourner dans la première lettre de Jean, 1 Jean au premier chapitre. Pour connaître la joie. Il est ouvert. Comment faire pour connaître la joie? Je suis en train de faire un fax à Saint-Boniface, à la pharmacie, puis il y avait un livre que j'étais en train de préparer sur la joie, le bonheur. Puis il y avait un livre, c'était « Comment connaître le bonheur? » Alors, je tourne ça, puis je commence à lire en attendant que mes enfants...
Je ne sais pas si c'est une blague ou une histoire vraie, mais en tout cas... Dans un couple, l'homme demande à sa femme « Que voudrais-tu pour Noël? » Et sa femme lui répond « Si je suis vraiment sincère avec toi puis je suis honnête, j'aimerais ça avoir le divorce. » Alors l'homme, il répond, il dit « Écoute, il dit moi aussi, si je suis très honnête avec toi puis que je suis franc, je ne pensais pas investir autant. » Je souligne le terme « investissement ». Ce qui était souligné dans le passage. Tout ça pour souligner l'ironie dans la chose, c'est que pour la joie, on semble être dans une société qu'on a tout pour être heureux, mais en même temps, on est dans la société que le taux de divorce augmente le plus en flèche. Il y a plus de divorcés qu'il y a de personnes qui sont mariées, un couple stable, comme il faut. En 2005, l'Université de Trois-Rivières a essayé de faire une étude pour savoir quel couple dure le plus longtemps. Et qu'est-ce qui caractérise? Et l'étude a été avortée parce qu'ils n'ont pas trouvé assez de couples mariés qui étaient unis et non pas divorcés, remariés, puis remariés, puis les familles éclatées. Ils ont arrêté l'étude, ils n'ont pas trouvé assez de familles. Alors, c'est un texte qui va nous concerner. Je ne veux pas nécessairement parler pour le couple, mais l'extension peut se faire aussi. Et le gros du message va se faire à partir de 1 Jean, chapitre 1, verset 4. « Ceci, nous l'écrivons afin que notre joie soit complète. » Comment trouver le bonheur? Il y a des rayons au complet de livres en méthode en 5 étapes pour trouver le bonheur. Et la Bible, qu'est-ce qu'elle dit pour trouver le bonheur? À mon avis, il faut bien définir qu'est-ce qu'on cherche. Dans un cours que j'ai fait en logique à l'université, que je suis en train de terminer, la définition est utile. Écoutez, à quoi ça sert la définition? Le terme « définition » en français vient du mot latin « definitio », qui signifie l'action de délimiter un espace. Ce nom d'action a été formé de deux éléments, le préfixe « de » qui marque l'aboutissement du processus est le verbe « finire » qui veut dire « borner, imposer des limites ». Dans un sens étymologique, définir, c'est entourer une surface quelconque par une ligne, c'est préciser, indiquer et manifester son périmètre et son étendue au moyen d'un tracé observable. Ce n'est pas la définition qui fait qu'une chose existe. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'on perçoit quelque chose. Puis on veut, dans le fond, définir ce qu'on perçoit, donc on veut y mettre une limite. Et toutes les religions, toutes les philosophies, de l'athéisme jusqu'au bouddhisme, en passant par l'hindouisme, vont définir le bonheur ou quelque chose qu'on va rechercher. Et dans la définition qu'on va donner à la joie ou au bonheur, bien, ça va nous donner, en quelque sorte, la méthode qu'il va falloir pour arriver à ce qu'on cherche. Mais on observe quand même un état de choses. Mais avant de définir, il faut qu'on observe qu'est-ce qu'on veut trouver. Et pour ce faire, il va falloir qu'on regarde les trois premiers versets, parce qu'ils réfèrent vraisemblablement à ces versets. Pourquoi ce verset m'intéresse? C'est à cause des questions qu'il soulève. C'est un verset simple, ceci nous l'écrivons afin que notre joie soit complète. Et comment ma joie peut-elle être complète? À quel genre de joie réfère-t-elle? Qu'a-t-il écrit pour rendre cette joie complète? Et comment est-ce que ce qu'il a écrit peut rendre une joie complète chez une personne? Comment Ça travaille en nous, ça. Que veut-il dire, justement, par complet? Et l'auteur est-il égocentré de rechercher sa propre joie et de celle à ceux qui écrivent? Et vous comprendrez le titre, « Comment trouver la joie ». Joie, bonheur, je vais l'utiliser indifféremment pour l'exposition d'aujourd'hui. On va regarder trois choses. On va regarder le contexte de ce verset, on va regarder la définition qu'on pourrait donner à la joie, et on va faire l'analyse des concepts qui sont en cause, qui est tiré de notre texte d'aujourd'hui. Commençons par un contexte un petit peu plus large de cette première lettre de Jean. On est au début de cette lettre, et donc, il faut lire les trois premiers versets, parce qu'il y a trois versets qui le précèdent. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Ceci, nous l'écrivons, afin que notre joie soit complète. 1 Jean, c'est une lettre très importante pour nous aujourd'hui. Et c'est pour ça que mon intérêt s'est porté vers cette lettre de Jean. Il y a plusieurs, si on lit des différents commentaires, on peut prendre cette lettre et la diviser de plusieurs façons. Pour faire ça simple, on peut dire qu'il y a au moins deux sujets que Jean traite de façon claire dans sa lettre. Premièrement, il nous dit que Dieu est lumière. Au chapitre 1, verset 5, et plus tard, à deux reprises, dans le chapitre 4, il nous dit que Dieu est amour. Et si on remarque au verset 5 du premier verset, il nous dit « Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. » Et si on remarque au chapitre 3, verset 11, encore une fois, « Voici le message que vous avez entendu dès le commencement, aimons-nous les uns les autres. » Et donc, il y a un petit peu une division naturelle ici qu'on pourrait faire. Les quatre premiers versets, l'introduction, de 5, 13 à 21, on pourrait dire que c'est la conclusion. Puis entre les deux, il y a au moins ces deux sujets-là. Dieu est lumière, Dieu est amour. Le thème principal de la lettre, c'est le chrétien dans le monde. Il n'écrit pas pour dire que, vu que vous êtes chrétien, vous n'êtes plus dans le monde. Au contraire, il dit, vous vivez dans le monde, mais dans ce monde, vous allez vivre des épreuves et vous allez être confronté dans votre foi. Et il veut donc fortifier et augmenter un petit peu notre foi, parce qu'il y a des dangers réels pour le croyant. Et l'apôtre ici nous dit qu'il nous écrit afin que sa joie, puis notre joie soit complète. Ce qui nous amène à poser des questions comme tantôt. Et de façon évidente, la division dans nos Bibles, c'est que le quatrième verset est précédé des trois premiers. On les a lus. Mais pourquoi écrire ces choses? Pourquoi commencer sa lettre, ceci, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu? À quoi qu'il réfère? Un certain nombre de commentateurs sont portés à croire que cette lettre, Jean l'a écrite pour répondre à des questions non pas juives, mais non juives, à cause qu'il y avait une secte qui commençait à grandir, le gnosticisme. Ce qui les amène à dire ça, c'est qu'il n'y a aucune citation de l'Ancien Testament dans Jean, dans 1 Jean. Deuxièmement, c'est que le style de 1 Jean ressemble étrangement surtout à l'Évangile de Jean, mais en particulier les 18 premiers versets. Est-ce que Jean veut reprendre dans le fond son Évangile puis donner des détails dans ça? C'est possible. Et pour bien comprendre l'agnosticisme, c'est un mouvement qui est pour eux, bien évidemment c'est hérétique, c'était une grosse erreur. Et ça commençait à grandir, et pour faire rapidement, c'est une secte qui disait que Jésus était un esprit, l'esprit c'était quelque chose de bon, la matière, le corps c'était mauvais. Et donc, pour eux, de dire que Jésus était le Christ, c'est impensable. Et donc, d'attribuer le titre de Christ à Jésus, ça ne se pouvait pas. Et donc, toute la définition, le concept de Jésus, la vie de Jésus, était complètement changé pour eux. Il y avait une espèce d'élite dans laquelle eux autres étaient initiés pour arriver à une certaine connaissance. Et gnosticisme, ça veut dire connaissance, gnostique. Et donc, il fallait avoir une certaine révélation qu'eux-mêmes pouvaient transmettre pour arriver à la vie éternelle ou à autre chose. Et évidemment, c'est une erreur et Jean veut combattre ça, cette pensée-là. Dans son contexte plus immédiat, il y a trois versets qui le précèdent. Et Jean, quand il nous dit « Ceci, nous l'écrivons afin que notre joie soit complète », semble anxieux de ces chrétiens. Bien, c'est comme s'il y avait la possibilité que cette joie ne soit pas complète pour lui et pour ces chrétiens s'ils ne grandissent pas dans leur foi. Si la philosophie de ce groupe de personnes ou d'autres groupes de personnes influence grandement la mentalité chrétienne dans nos églises, Jean semble dire que ça va être difficile d'arriver à cette joie-là. Et en même temps, il soulève un point incroyable, c'est qu'il est en train de nous dire qu'il est possible d'avoir une joie complète, durable. Et ça, ça commence à être intéressant. Et ce n'est pas le seul passage qui dit qu'il faut rechercher la joie. Philippiens 4:4. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, « Réjouissez-vous. » Mais en même temps, Jean a été enseigné par Jésus. Et si on regarde dans Jean 16:33, ce matin, c'était drôle, on parlait de différentes promesses. Et ce verset, c'est une promesse. « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations. » C'est une belle promesse. Il nous promet qu'on va vivre des tribulations, particulièrement les disciples. Puis, juste un petit peu avant, au verset 22, il nous dit, « Vous donc aussi, vous avez maintenant de la tristesse, mais je vous verrai à nouveau, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ôtera cette joie. » Au chapitre 15, 9 à 11, il nous dit, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans son amour. Si vous gardez mes commandements, et si vous demeurez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour, je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. » C'est pratiquement les mêmes mots que Jean veut souligner. Et encore au verset 24 du chapitre 16, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez afin que votre joie soit complète. » Et même Jésus semble dire qu'il y a la possibilité d'avoir une joie qui est complète. En fait, la joie fait partie de la vie du chrétien. Martin Lloyd-Jones a dit ceci, « Les chrétiens dans ce monde sont destinés à être remplis de joie. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Et nous manquons à notre témoignage chrétien si nous ne connaissons pas et si nous ne la connaissons pas et si on ne la manifeste pas. » La joie, c'est une des marques du chrétien. Mais ceci, nous l'écrivons afin. Quelles sont les motivations de Jean en écrivant ces choses? Ici, il nous dit « afin que la joie soit complète ». Donc, c'est pour promouvoir la vraie joie dans la vie du croyant. Mais remarquez encore, regardez le verset, chapitre 2, verset 1. « Mes petits-enfants, je vous écris. » Donc, encore une fois, il veut nous montrer pourquoi il écrit cette lettre. « Je vous écris afin que vous ne péchiez pas. » Et donc, un Jean semble être écrit aussi pour prévenir contre le péché. Et encore, au verset 2, chapitre 2, verset 26, « Je vous ai écrit ceci au sujet de ceux qui vous séduisent. » Donc, c'est pour protéger des faux enseignants. Et encore, au chapitre 5, verset 13, « Cela, je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Il veut qu'on ait de l'assurance. « Ceci, nous l'écrivons au verset 4, chapitre 1er. Ceci réfère à quoi? Est-ce qu'il réfère à toute la lettre? Donc, 1 Jean est écrit afin que toute notre joie soit complète. Ou ceci réfère aux 3 premiers versets? Et dans ce cas, les 4 autres citations que j'ai données pour prévenir le péché, contre les faux enseignants et pour l'assurance, serviraient comme une autre division et les autres sections appuieraient le fait que, et contre les faux enseignants et l'assurance. C'est une bonne question. Je vous suggère les 2. Ils semblent connectés intimement aux 3 premiers versets. Et j'aimerais qu'on les regarde ensemble. Et en même temps, ça va servir pour toute la lettre de 1 Jean. Ces 3 premiers versets devraient aider le croyant à ce qu'on ait une joie. Verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Il nous dit, on a entendu, on a touché, on a contemplé, et donc, on vous l'écrit. Et Jean écrit à ces personnes qui font face à de l'opposition dans l'Église, à des fausses doctrines, à des attaques spécifiques concernant l'identité de Jésus, et il invite les chrétiens à ne pas introduire rien qui pourrait entacher l'identité de Jésus. Et il semble référer à au moins un événement. Nous avons contemplé. Jean utilise ce terme aussi dans Jean 1, 14, et il fait vraisemblablement référence à la transfiguration. Et on va revenir sur ce point tantôt. Jésus et son message, c'est ensemble. On est témoins, on a vu. Ça, c'est l'identité de Jésus. Mais en même temps, on veut vous affermir dans ça depuis le début qu'on vous annonce ces choses. Et donc, le message et l'identité est pareil depuis la mort, la résurrection de Jésus. Il n'a pas changé. Et on écrit ces choses afin, justement, de ne pas dénaturer puis que ces sectes-là ne viennent pas dans l'Église pour, justement, introduire leurs choses puis dénaturer l'identité de Jésus. 4 verbes. Qui souligne le fait que c'est un témoin qui parle. Entendu, vu, contemplé, touché. Verset 2 apporte une précision. C'est une espèce de parenthèse qui s'applique à la parole de la vie. Et la vie a été manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Il donne des précisions concernant cette vie. Cette vie qui vient du Père n'est rien de moins que la vie éternelle. Premièrement, Jésus est Dieu et il est venu sur la terre. Deuxièmement, c'est qu'il s'est révélé à nous. Ce n'est pas une révélation personnelle en quelque part dans une grotte. C'est lui qui nous pourchasse et qui est venu à nous. Et ça concorde aussi ces passages avec la conclusion de 1 Jean. 1 Jean, qui est un des 5:20, c'est un des plus beaux versets pour la divinité de Jésus, que Jésus est Dieu. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître celui qui est le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable. Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et il y a un petit verset qu'il faut lire. « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Avoir la vie éternelle, c'est à cause de Jésus. Et Jean semble mettre l'emphase dans son introduction sur l'identité de Jésus, mais aussi dans sa conclusion. Et pourquoi ce verset 21, « Petits enfants, gardez-vous des idoles? » Parce que dans 1 Jean, il n'a jamais parlé d'idolâtrie. Jamais. À mon avis, la seule possibilité, c'est qu'il est en train de résumer ce qui est contenu dans ça. Il n'est pas en train de faire de l'évangélisation, il est en train de parler à des chrétiens, puis il est en train de se dire, petits enfants, gardez-vous des idoles. Et qu'est-ce qu'une idole? C'est ce qui dénature Jésus. Et ce qui est contenu, et si ça dénature Jésus, bien, il y a un risque de perdre notre joie. Véritable. Verset 3. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Le verset 3 reprend sensiblement la même idée que le verset 1. La parenthèse est finie, des précisions sur la vie. Et maintenant, il veut revenir au fait qu'il est témoin et qu'il est en communion avec Jésus. Mais en même temps, il veut qu'on soit en communion avec lui. Et donc, un chrétien, c'est quelqu'un qui a son fondement dans les apôtres, qui eux autres mêmes sont témoins de ce que Jésus a fait. Et en faisant ça, Jean veut assurer que celui qui croit au Dieu homme Jésus, ici-bas, il s'est révélé à nous, a la vie éternelle. Et en faisant ça, Jean équipe le lecteur. Il veut que le lecteur tienne compte de son commandement final, c'est-à-dire, gardez-vous des idoles, dénaturez pas Jésus. Il est donc raisonnable de penser que la lettre, dans son entier, va favoriser la joie du chrétien. Et remarquez le verset 4 maintenant. Ceci, nous l'écrivons afin que notre joie soit complète. Le parallèle avec le verset 3, il nous dit, nous vous l'annonçons, et maintenant nous vous l'écrivons. Et donc, il veut laisser une trace écrite pour montrer que le message, c'est le vrai. Il est encore témoin oculaire. Il est encore en train de favoriser son témoignage pour nous. Maintenant qu'on a vu tout ça, c'était un prélude à notre définition. Et j'ai cherché une définition qui pourrait convenir. Je n'en ai pas trouvé. Alors j'en ai fait une en tentant de tenir compte du contexte. La joie, c'est un état de satisfaction profonde et durable qui est le résultat de l'activité de Dieu dans le croyant et qui pousse celui-ci à un esprit d'obéissance et d'adoration. C'est un état de satisfaction profonde et durable qui est le résultat de l'activité de Dieu dans le croyant et qui pousse celui-ci à un esprit d'obéissance et d'adoration. Quelques notions en cause dans cette définition. La joie véritable est liée à la personne de Jésus. Ce verset, on a vu qu'il y a des parallèles avec ce que Jésus nous disait. Dans l'Évangile, il y en a d'autres, là, je ne les ai pas tout donné. Et cette joie est rien de moins que de demeurer dans mon amour. Gardez mes commandements comme moi j'ai gardé mes commandements. Et si vous faites ça, votre joie soit complète. Ma joie que je vais vous donner en vous sera complète. Et cette joie résulte de la communion avec Jésus et du témoignage des apôtres. C'est quelque chose de profond, de durable. Ça a une portée qui va jusque dans l'éternité. En d'autres termes, ça satisfait mes émotions, mes besoins, mes affections. C'est une connaissance intime de la personne de Jésus qui fait que je manquerai de rien. Il satisfait mon esprit, mes désirs. Et Jean nous dit que c'est lié à la personne de Jésus. La joie est donc une réponse ou une réaction de l'esprit, de notre esprit, à la connaissance de Jésus. La connaissance de Jésus semble être la cause profonde de cette joie pour le croyant. L'objectif n'est pas qu'on ait des émotions pour qu'elles soient plus profondes en elles-mêmes, les émotions, mais c'est qu'on cultive une relation d'amour avec Jésus, toujours de plus en plus intime, de plus amoureuse, personnelle avec Jésus. Et quand qu'on fait ça, le fruit de l'amour, c'est quoi? L'amour, la joie. Il y a un fruit à cette communion avec Jésus, et un de ses fruits, c'est la joie. Et donc, étudier Jésus, étudier la joie en Jésus, c'est l'étude d'une relation d'amour
entre un croyant puis Jésus. Et plus que je lis sur la joie, plus que j'étudie la joie dans la Bible, plus je me rends compte que c'est lié à l'amour. Étudier l'amour, c'est étudier la joie que Jésus avait. Mais en même temps, ce texte semble référer, et, ou du moins pointe vers le Père et le Fils, cet amour qu'ils ont ensemble. Et le langage qui est utilisé dans ces versets réfère à Jean 1,14, qui dit que Dieu s'est fait chair et qu'il a habité parmi nous, qu'ils ont contemplé sa gloire. Il fait référence à la transfiguration. Et regardons la transfiguration. Je vous invite à tourner dans Matthieu chapitre 17. Dieu, Jésus, c'est le modèle de cet amour, de cette joie, de ces plaisirs, de ce bonheur qu'on peut avoir en tant que chrétien. Matthieu 17, verset 7. Verset 5. « Comme il parla encore, une nuée lumineuse les enveloppa, et voici qu'une voix sortit de la nuée qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Écoutez-le. Dieu se révèle sur cette montagne pour dire une parole. « Celui-ci est mon Fils en qui je prends plaisir. » C'est pratiquement une citation d'Isaïe 42. Isaïe 42, les termes qui sont utilisés, ça désigne des plaisirs intimes, des délices. Quand ils voient Jésus, ils se délissent. Ce n'est pas la première fois que ces paroles ils viennent dans Matthieu. Première parole, première fois que ces paroles sont utilisées au baptême. Juste avant le ministère public de Jésus, le Père prend plaisir en Jésus. Et à la fin de son ministère, juste avant de s'en aller vers la croix, encore une fois, le Père se révèle et dit, « Je prends plaisir en mon Fils. » Et deuxièmement, deuxième observation, c'est que le Fils, ici présent, dans la transfiguration, on pourrait dire, c'est la plénitude de la divinité. C'est Colossiens 2,9 qui dit que Jésus, c'est la plénitude de la divinité. Hébreux 1,3, c'est le rayonnement de la gloire de Dieu. En fait, c'est Dieu. Et donc, Dieu prend plaisir en son Fils, mais les plaisirs qu'il prend, c'est en lui-même. Il prend plaisir dans sa propre image qui se trouve à être Jésus. Jésus, c'est l'image de Dieu. Et il réfère, Jean, à 1,14. Et Jean 1,14 établit sensiblement les mêmes points que 1 Jean. Dieu est notre modèle. 1 Jean nous amène à dire qu'il y a une communion entre le Père et le Fils et on va trouver cette joie-là qu'il va nous donner. Et dans Jean 1,14, il dit « La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » L'original, c'est une citation pratiquement, ou du moins il réfère, parce qu'un petit peu après, il veut référer à ce que Moïse a fait, et il réfère sensiblement, directement à Exode 33 et 34. Quand Moïse est sur cette montagne, il dit « Fais-moi voir ta face ». Et Dieu prend Moïse, le cache avec sa main dans le creux d'un rocher, et il fait défiler sa gloire devant lui. Et puis Moïse qui dit, « J'ai vu les bontés, la grâce de l'Éternel. » Il a vu la gloire. Et ici, c'est sensiblement le même langage. « Nous avons contemplé sa gloire, une gloire qui était pleine de grâce et de vérité. » Dieu s'est fait chair et ils ont contemplé Dieu en fait chair. Et c'est le point qui est établi aussi justement dans 1 Jean. Et donc, Dieu est le fondement de notre joie, une joie éternelle, qui est basé sur sa propre personne, qui nous invite à trouver en lui. La joie est l'œuvre qui découle de notre relation avec Jésus. C'est un état de satisfaction profonde et durable qui est le résultat de l'activité de Dieu dans le croyant. La joie véritable est possible seulement si Dieu fait le travail dans le croyant.
les chrétiens puisent leur joie dans la façon que Dieu agit à leur égard. C'est pour ça qu'il y a un grand nombre de versets dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui nous invitent à regarder vers la croix. Et plus qu'on étudie ces passages, plus qu'on regarde vers Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour nous, plus qu'on plonge justement dans cette relation d'amour que Dieu a eue pour nous, plus que je développe cette joie-là. C'est ça le point. La joie jaillit du fait de connaître la valeur de ce que Dieu a fait pour nous. Regardez avec moi encore dans 1 Jean 4,19. Pour nous, nous aimons, parce que lui nous a aimés le premier. Négativement, si je reformule le verset, ça dirait à peu près ceci. Pour nous, il serait impossible d'aimer, à moins que lui-même nous ait aimé le premier. Mais c'est ce qu'il a fait. S'il ne m'aime pas, je ne peux pas l'aimer. Mais il nous a aimés. Et quand je plonge mes regards dans cet amour qu'il y a eu pour nous, il se produit un fruit qui se trouve à être la joie. Et si je dénature Jésus, par conséquent, la logique est simple, la joie du chrétien va s'estomper. C'est une joie profonde qui résulte, non pas des circonstances, mais d'une filiation. Jonathan Edwards a dit ceci, « Le plus grand et le plus universel des buts de Dieu en créant le monde était de se communiquer. Dieu est un être de communication. Cette communication est seulement pour les êtres intelligents. Cette communication de lui-même, à leur compréhension, est sa gloire. Et la communication de lui-même à l'égard de leur volonté, ayant la faculté de se réjouir, est le bonheur. » Je pense qu'il résume bien le passage. Dieu s'est révélé, et quand il se révèle à une personne, il y a un fruit au bout, ça va être la joie. J'aimerais vous donner un exemple qui joint ces deux vérités, à savoir que c'est lié, la joie véritable est liée avec la personne de Jésus, mais aussi que c'est le travail de Jésus dans le croyant. Et tournez avec moi dans Matthieu 16, juste avant la transfiguration finalement. Matthieu 16, versets 16 et 17. On s'interroge sur qui est Jésus. Et Jésus demande à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis? Qu'est-ce qu'on dit de moi? » Il y en a qui disent que tu es un prophète, d'autres que tu es Élie. Et puis là, verset 15, « Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Et Simon-Pierre a répondu, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. » L'origine de la connaissance est déclarée de deux façons. Négativement, ce n'est pas par toi-même, par ta chair, par le sang, par ta propre intelligence. Et positivement, c'est Dieu qui te l'a révélé. Tu es heureux. Certaines personnes sont aveugles parce qu'ils pensent que je suis un prophète, que je suis ci, que je suis ça. Et Jean, je suis convaincu qu'il dirait, il y en a qui sont fous parce qu'il y en a qui pensent que Jésus est un esprit. Mais vous, vous êtes heureux parce que vous connaissez qui je suis. C'est l'œuvre de Jésus dans le croyant. Troisième point. La joie véritable se trouve dans l'étude de la parole de Dieu. Il faut reconnaître qu'il y a différentes personnes qui ont différents dons. Et un des dons que je n'ai pas, c'est que je ne lis pas vite. Et donc, il faut que je m'habitue à avoir des bonnes méthodes de lecture. Et si vous êtes comme moi et que vous voulez lire 1,294,212 livres, il faut qu'on ait une bonne méthode. Et Jean nous invite à lire la Bible, à plonger nos regards dans la Bible. C'est John Owen qui disait, la Bible va vous éloigner du péché ou le péché va vous éloigner de la Bible. Et Jean veut écrire ces choses afin que notre joie soit complète, pour pas qu'on soit séduit par toutes ces idoles qui viennent. C'est pas pour rien que Jean écrit ces choses. C'est pour conserver le message d'origine, pour conserver le témoignage de Jésus dans lequel nous pouvons plonger les regards et atteindre cette joie. Mais il faut lire. Il faut qu'on prenne notre Bible et qu'on la lise. Deux gros défis aujourd'hui pour nous. Un, Internet. On regarde Internet, l'information est tellement facile, on peut avoir accès à tout que je soupçonne les chrétiens de lire de moins en moins. On va chercher des opinions, on va chercher des commentaires, on va chercher des idées, on va sur des blogs, on va lire des articles, des parties d'articles. Puis là, ça rentre, puis là, ça vient, puis là, ça vient. Puis là, à un moment donné, on a plein d'idées. Puis là, on se rend compte là, bien souvent qu'il y a plein de chrétiens qui sont mélangés parce qu'ils ont plein d'idées. Puis on n'a pas plongé les regards dans la parole. Deuxième mise en garde, nous sommes habitués aux lecteurs de nouvelles. Les opinions qui viennent partout, un lecteur de nouvelles, tu sais, lui nous lit ça, là. Ça c'est nos lectures de nouvelles. La prédication, il y en a sur Internet, il y en a partout, je pourrais venir à l'église, moi l'écouter sur Internet, tu sais. Non, il y a quelque chose de relationnel dans la prédication, il y a quelque chose d'important dans la prédication, dans la vie du croyant. Et Jean veut non seulement annoncer ce qu'il dit, mais il veut qu'on plonge les regards dans l'Écriture et les deux vont ensemble. Blogs, réseaux sociaux, mes propres idées, mes opinions, ça, ça prime. Mais quand c'est le temps, EBE, études bibliques essentielles qu'on donne à l'Église, Profac, je pense à Doug qui développe ça beaucoup avec Gilles Despins, des cours de qualité qu'on a dans l'Église. Et sur 250 élèves, je serais curieux de savoir comment il y en a de Cap-la-Madeleine qui participent à ces cours-là. Ah, on va écouter John Piper, mais quand c'est le temps de nous se pointer en avant de la parole, de méditer et de la comprendre, mais Facebook, ça c'est le fun. Il y en a des idées là-dessus. Et puis toutes les autres. Quelques suggestions pour vous. Certaines personnes ne lisent pas vite, comme je disais, comme moi. Alors, il faut choisir une bonne façon de lecture. On n'a pas de temps à perdre avec des mauvais commentaires. Des mauvais commentateurs de la Bible, quand on n'a pas beaucoup de temps, je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Il y a des personnes dans l'Église ressources, vous pouvez venir les voir. On peut vous suggérer des livres. On en a des bons livres. Puis on a une Église qui a une maison de publication là au bord de la rue. Fait qu'il y a possibilité d'avoir du bon matériel de qualité, même en français. Deuxièmement, il faut créer des bonnes habitudes de lecture. Parce que créer des bonnes habitudes de lecture, c'est de prendre la substance de la parole, de se l'appliquer soi-même, puis d'exercer notre discernement. Lire avec prière et partager vos lectures que vous avez. Il y a des cellules de prière. Il y a les repas du Seigneur. Il y a plein de personnes autour qui ne connaissent pas Jésus qui périssent. Et Jean veut nous écrire ces choses afin que notre joie soit complète. Mais pour ça, il faut qu'on lit. Il faut qu'on prenne le livre et qu'on lise. J'aime ça les blogs, j'aime ça toutes sortes d'affaires, mais à un moment donné, il faut prendre la Bible, qu'on plonge dedans et qu'on regarde. C'est sérieux là, pour notre société, pour notre Église. Quatrième point, qui est une conséquence de notre définition, la joie véritable ne réside donc pas dans les circonstances. Mon application ici va être très, très simple. Je vais y aller par un témoignage, non pas personnel, mais Martin Lloyd-Jones. Grand prédicateur au siècle dernier, Martin Lloyd-Jones, qui a publié des dizaines de livres, des milliers de pages, peut-être juste dans Romain, il y a 15 volumes. C'est un grand prédicateur qui a marqué une génération et qui marque encore les générations qui suivent. G.I. Packer, à l'âge de 22 ans, qui a fréquenté l'église de cet homme, La première fois qu'il a entendu Martin Lloyd-Jones prêcher, il a dit ceci, « Ce fut comme un choc d'écouter un tel homme exposer la parole. » Il a marqué une génération. Prédicateur pendant 30 ans au Westminster Chapel à Londres, à la fin de sa vie, son biographe est allé le voir. Martin Lloyd-Jones, qui était médecin, subissait de formation. Après ça, il est allé dans le ministère à temps plein. Il avait un cancer. Il était dans les derniers moments et son biographe officiel, à un moment donné, prenait du temps avec lui. Et puis, il voulait l'amener à s'interroger sur sa vie et la fin de sa vie. Et Martin Lloyd-Jones, très faible, a pris du temps avec lui. Et puis, je pense que c'est Ian Murray qui a posé la question. « Docteur Jones, comment tu vis ça? Instrument dans la main de Dieu, des milliers de personnes probablement se sont converties, une église de 2500 personnes, je pense, 30 ans de ministère, tu as écrit des volumes, des manuscrits, tu as combattu des erreurs dans les églises, et ça a été une des deux personnes qui se sont levées contre des mouvements d'évangélisation, qui international, des télévangélistes. Puis là, tu te lèves deux fois pour aller aux toilettes dans la nuit, tu es faible, tu es maigre, tu écris une page, tu es trop faible, tu retournes te coucher, tu te relèves, tu as de la misère à respirer. Comment tu vis ça? » Et Martin Lloyd-Jones a cité un texte. Luc 10, verset 20. Il a regardé son biographe puis il a dit, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Et Lloyd-Jones connaissait le contexte de ce passage. Les 70 disciples que Jésus a envoyés, ils ont fait des prodiges, ils ont chassé les démons, on voit dans les versets avant, et puis Jésus, il vient... Puis il dit, ne te réjouis pas de ça, mais réjouis-toi de ce que ton nom est inscrit dans les cieux. Et à ça, Martin Lloyd-Jones a ajouté, je suis vraiment satisfait. Dans un autre commentaire, il a dit ceci, je n'ai pas cette joie entière dans le Seigneur si je suis toujours variable et dépendant des circonstances, des accidents ou des choses qui m'arrivent. Les puritains avaient ils réfléchissaient à comment bien mourir. Comment bien mourir? Lloyd-Jones l'avait compris. C'est un état de satisfaction profonde et durable qui est le résultat de l'activité de Dieu dans le croyant, et qui pousse celui-ci à un esprit d'obéissance et d'adoration. La joie véritable est liée à la personne de Jésus. La joie véritable est possible seulement si Dieu fait le travail dans le croyant. La joie véritable se trouve dans l'étude de la parole de Dieu, et la joie véritable ne réside donc pas dans les circonstances. On va prier. Oui, Seigneur Dieu, tu nous laisses des témoignages vivants comme Lloyd-Jones, comme Jean aussi qui a écrit cette lettre, comme Paul qui a écrit d'autres lettres, et comme Jésus, qui malgré l'opposition, malgré le fait qu'on est ridiculisé, il y a des personnes dans le monde qui souffrent, qui meurent, on veut se réjouir de ce qu'on a la vie éternelle. Et ne permet pas qu'il n'y ait personne ici ce soir qui n'ait pas cette vie éternelle, Seigneur. Attire-le à toi si c'est le cas. Fais cette œuvre dans cette personne afin qu'il puisse avoir cette joie, cet amour que tu as pour lui. Et pour nous, chrétiens, Seigneur. Non seulement on veut te dire merci, mais on veut te demander de nous garder des idoles qui viennent si facilement, qui pourraient dénaturer qui tu es vraiment, Seigneur. Donne-nous d'être disciplinés dans l'étude de ta parole. Donne-nous de pouvoir être en amour avec ta parole. Donne-nous de pouvoir vraiment fixer les regards vers toi pour qu'on puisse avoir cette joie complète, profonde, même quand ça va mal, Seigneur. Et qu'on puisse dire, nous aussi, à la fin de notre vie, je suis pleinement satisfait. Parce que tu vas avoir travaillé dans nos vies, Seigneur. C'est par nous avec ta bénédiction, Seigneur, et on veut tendre vers cet amour, vers cette joie, Seigneur. Amen.